France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. L'audiovisuel public respecte-t-il ses obligations de neutralité et d'impartialité? C'est tout l'objet de la commission d'enquête parlementaire qui a débuté ses travaux tout à l'heure. Une commission à forte coloration politique lancée par le parti d'Éric Ciotti. Quatre nouvelles interpellations dans l'enquête sur le cambriolage du Louvre. Le commando a peut-être été démantelé, mais les bijoux n'ont toujours pas été retrouvés. On fait le point dans un instant avec Aurélien Tirard. La Commission européenne valide les efforts de la France pour contenir son déficit public, mais Bruxelles s'inquiète aussi de l'incertitude considérable autour du projet de budget 2026. Notre dossier ce soir consacré à la lutte contre les violences faites aux femmes, dont c'est la journée internationale aujourd'hui. En Irlande, il existera peut-être bientôt un registre qui permettra de vérifier si son compagnon a déjà été condamné pour violences domestiques. Il aura suffi d'une vidéo montrant les journalistes Thomas Legrand et Patrick Cohen discuter avec des dirigeants socialistes pour que l'audiovisuel public soit sommé de s'expliquer à l'Assemblée. La commission d'enquête a commencé ses travaux tout à l'heure à l'initiative du parti d'Éric Ciotti, l'Union des droites pour la République alliée du Rassemblement national. L'objet de cette commission, c'est, je cite, la neutralité, le fonctionnement et le financement des médias publics. Première personnalité auditionnée par les députés, Martin Hajdari, le président de l'ARCOM, l'autorité de régulation de l'audiovisuel. Une audition suivie par Pierre Repère.
L'ambiance de cette première session de la commission d'enquête était d'emblée tendue. À gauche, des voix s'étaient élevées pour dénoncer une enquête à charge contre le service public à un moment où ce dernier est la cible de toutes les attentions. Une impression confirmée par les propos de l'entourage d'Éric Ciotti à l'origine de cette commission d'enquête. Donc, il s'est ainsi dit, selon Le Figaro, qu'il y avait beaucoup de scandales à révéler et qu'il était temps, je cite, de sortir les squelettes du placard. Sans surprise, donc, le président de la commission, le député Horizon Jérémy Patrieletus, a commencé par une mise au point.
Je n'accepterai pas de lire dans la presse une sémantique et des propos inacceptables à l'endroit des personnes que nous auditionnerons. Nous ne sortirons pas les cadavres du placard. Les acteurs et les salariés de l'audiovisuel public méritent le respect que nous devons à chacun de nos concitoyens. Cette commission ne sera pas le lieu de la politique spectacle où l'on vient chercher un quart d'heure de gloire médiatique. Je l'ai dit au rapporteur, je refuserai de convoquer devant cette commission des personnalités dont la présence n'a qu'un objectif, faire le buzz. Cette commission d'enquête ne se transformera pas en plus grand cabaret du monde où chacun vient faire son numéro.
La première personne convoquée aujourd'hui, le président de l'autorité de régulation, Martin Hajdari, n'en est pas moins passé sur le grill. Le rapporteur de la commission, le député UDR Charles Alloncle, a commencé par interroger le parcours du président de l'ARCOM, cherchant à évoquer des possibles conflits d'intérêts.
Avec un parcours quand même teinté de politique, d'expérience politique, quelles sont les garanties que vous pouvez apporter pour être à la tête d'une autorité publique indépendante qui est censée être garante de ses objectifs, notamment de neutralité, d'indépendance et d'honnêteté que vous avez rappelé?
Réponse de l'intéressé.
Je n'ai aucune activité politique depuis 11 ans. Je pense que c'est un délai qui est très largement suffisant pour m'exonérer.
L'ambiance est donc déjà pesante. Preuve en est des questions posées par le rapporteur qui a suggéré une différence de traitement dans les sanctions à l'encontre de la chaîne C8 comparativement aux chaînes du service public. Autre sujet, l'absence de sanctions de l'ARCOM à l'encontre de Radio France dans l'affaire Thomas Legrand et Patrick Cohen a également été soulevée. Martin Hajdari a rappelé que Radio France a agi en sanctionnant Thomas Legrand et en le mettant à pied.
Pierre Repère, la commission entendra aussi les explications des patronnes de France Télévisions et Radio France. Delphine Ernot et Sybille Veil seront respectivement reçues les 10 et 17 décembre prochains. Plus d'un mois après le cambriolage de la galerie d'Apollon au Louvre, la police a peut-être réussi à démanteler le commando. Le parquet de Paris a annoncé cet après-midi 4 nouvelles interpellations. Aurélien Tirard, si les bijoux de la couronne restent introuvables, l'enquête progresse.
Oui, désormais, 8 personnes sont interpellées. Et parmi ces 4 nouveaux suspects, 2 hommes âgés de 38 et 39 ans, ainsi que 2 femmes, elles ont 31 et 40 ans. Pour l'heure, on ne connaît pas le rôle de chacun dans le casse. L'un d'eux est-il le dernier membre du commando qui était encore en fuite? Ont-ils participé à la préparation du vol? Ou bien ont-ils permis aux voleurs de les aider dans leur fuite, d'écouler les bijoux qui n'ont toujours pas été retrouvés, selon nos informations? Le parquet de Paris ne souhaite pour l'instant pas en dire plus et indique que ces 4 personnes doivent être entendues par les enquêteurs de l'APJ parisienne.
Et puis Aurélien, dans cette affaire qui n'en finit pas d'ébranler le musée le plus visité au monde, 4 personnes sont déjà mises en examen.
Oui, trois hommes et une femme. Les trois hommes sont suspectés d'avoir fait partie du commando le 19 octobre dernier. Des hommes qui sont arrivés pour les uns, montés sur de puissants scooters. Les autres à bord d'un camion nacelle qui a permis d'accéder à la salle Apollon du Louvre, là où se trouvaient les bijoux, dont la couronne de l'impératrice Eugénie qui a été abandonnée sur place, plus des diadèmes, des colliers, une broche qui ont été volées pour une valeur marchande estimée à 88 millions d'euros. La quatrième personne poursuivie est une femme, compagne d'un de ces trois hommes placés sous contrôle judiciaire. Elle est poursuivie pour complicité de vol en bande organisée.
Explication signée Aurélien Tirard, merci. La France respecte ses engagements pour réduire son déficit public, estime la Commission européenne dans un avis publié aujourd'hui. Bruxelles valide les efforts du gouvernement Le Cornu, tout en pointant l'incertitude considérable entourant le projet de budget pour 2026, car la discussion budgétaire s'enlise au Parlement. Et les députés ont même rejeté samedi à la quasi-unanimité la partie recette du projet de loi de finances. On retrouve à Bruxelles Pierre Benazé, bonsoir.
Bonsoir.
Pierre, malgré cette incertitude considérable, la Commission européenne estime que le gouvernement français a tenu compte de ses recommandations.
Oui, depuis l'an dernier, la France a été placée sous procédure pour déficit excessif. On connaît par cœur cette sacro-sainte limite de 3% du PIB, au-delà de laquelle les budgets sont censés être dans le rouge. C'est critère de Maastricht. Les chiffres de la Commission européenne sont légèrement supérieurs à ceux du gouvernement, mais le commissaire aux affaires économiques table sur un déficit public français qui redescendrait à 4,9% en 2026, contre 5,5% cette année. La Commission conclut que ces taux sont dans la fourchette des recommandations. En janvier, la Commission avait établi une trajectoire de sortie de la procédure de déficit à l'horizon 2029, avec une courbe que la France semble suivre pour l'instant, malgré les incertitudes considérables que vous évoquiez.
Pierre, la Commission européenne a également émis un avis sur les trajectoires budgétaires des autres États membres de l'UE.
Oui, au total, 9 pays européens, dont l'Italie et la Pologne, sont eux aussi sous le coup d'une procédure pour déficit excessif. L'Allemagne n'en fait pas partie, malgré un déficit qui devrait atteindre 4% à cause des dépenses militaires en augmentation. Mais ces dépenses sont exclues du calcul grâce à une clause de sauvegarde nationale, une nouvelle clause activée par 16 pays. La Commission conclut sur ses perspectives budgétaires que, dans l'ensemble, l'économie européenne résiste malgré les efforts nécessaires de productivité et de compétitivité.
Merci Pierre Benazé en direct de Bruxelles. Pour la première fois, un sondage donne Jordan Bardella vainqueur de la prochaine élection présidentielle, quel que soit son adversaire. Selon cette enquête Odoxa Mascaré pour Public Sénat, le président du RN obtiendrait entre 35 et 36% au premier tour. Au deuxième tour, Jordan Bardella serait vainqueur dans tous les cas. 53% face à Édouard Philippe, 56% contre Gabriel Attal, 58% face à Raphaël Glucksmann. Et même 74% s'il devait affronter Jean-Luc Mélenchon en 2027. C'est un procès inédit qui se déroule actuellement devant le tribunal correctionnel de Paris. Le groupe cimentier Lafarge et plusieurs de ses dirigeants sont jugés pour financement du terrorisme. Ils sont accusés d'avoir versé de l'argent à des groupes armés, dont le groupe État islamique, pour maintenir l'activité de la cimenterie du groupe en Syrie. L'usine de Jalabiya ne sera fermée qu'en 2014, juste après la proclamation du califat djihadiste. Le tribunal s'est penché cet après-midi sur ces flux financiers qui aurait alimenté les caisses de Daesh. Florence Turme.
Une même réalité matérielle pour deux modes de fonctionnement, rappelle la présidente Isabelle Prévost-Desprez. Ces flux financiers servaient à assurer le transport des matières premières et du ciment et la sécurité des salariés syriens, les seuls encore sur place. Les versements vont d'abord à des entités armées, puis à des groupes terroristes, notamment Daesh, à partir de novembre 2013. Les premiers laissez-passer sont rédigés à la main, sur un papier en tête de l'organisation. Ils deviennent de plus en plus élaborés, mentionne Lafarge, indique que la cotisation due a bien été acquittée. Les espèces transitent par un intermédiaire, Firas Tlas, actionnaire syrien minoritaire de la cimenterie et grand absent de ce procès. C'est lui-même qui a pris l'initiative, insiste l'ancien directeur Bruno Pécheux. Les checkpoints étaient devenus une vache à lait pour les groupes concernés. Un chiffre, 100 000 dollars mensuels en novembre 2013, et il fait ce qu'il veut à l'intérieur de l'enveloppe, interroge la présidente. Le prévenu acquiesce, c'était quelque chose de su et connu. mise en place lors d'une réunion organisée fin 2012 à Gaziantep. Christian Hérault, l'un des dirigeants nationaux du groupe, préfère lui parler de raquettes. J'ai compris que soit on se faisait taxer, soit on fermait. Il évoque la situation et le chaos. On était tous persuadés que ça n'allait pas durer pour admettre finalement une situation temporaire qui dure. Notamment pour les versements, tranche Isabelle Prévost-Després. Voici au moins quelque chose d'acquis.
Florence Thiom depuis le Palais de Justice de Paris. Le gouvernement demande au préfet de faciliter l'hébergement des femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Priorité sera donnée aux mères de famille et à leurs enfants, selon la circulaire signée aujourd'hui par deux ministres, Aurore Berger et Vincent Jeanbrun. Une date symbolique pour cette signature, car le 25 novembre marque la journée internationale contre les violences faites aux femmes. On s'intéresse ce soir à l'exemple irlandais pour lutter contre ce fléau. En Irlande, les violences domestiques ont plus que doublé en 8 ans pour atteindre aujourd'hui près de 50 000 cas. Parmi ses victimes, Jennifer Poole, 24 ans, aide-soignante et maman de deux enfants, poignardée à mort par son conjoint en 2021. Depuis le meurtre de Jennifer, sa famille milite pour l'entrée en vigueur d'une loi, la Jenny's Law, en fait un registre qui permet de vérifier si son compagnon a déjà été condamné pour violence domestique. Le reportage à Dublin de Clémence Pénard.
Ce n'est qu'après la mort de Jenny que ses proches, dont Jason, son frère, ont découvert le passé judiciaire de son ex.
Lorsque Jennifer l'a rencontré, il lui avait dit, ainsi qu'à nous, sa famille, qu'il avait vécu en Espagne pendant 2 ans. Mais au cours du procès, nous avons appris qu'en réalité, il avait passé ses 2 années en prison, condamné pour violence domestique envers d'anciennes partenaires.
En lançant la campagne Jenny's Law, Jason a voulu créer un filet de sécurité.
Je n'aurais jamais dû avoir à identifier ma sœur couverte de sang sans pouvoir lui offrir un dernier câlin. Je ne veux pas qu'une autre famille ait à traverser ça. Cela permettra aux victimes à l'avenir de détecter rapidement si elles ressentent un malaise dans la relation ou se disent « il m'a frappé, mais c'est la première fois, il m'a assuré que cela ne se reproduirait jamais », eh bien aujourd'hui, elles pourront vérifier s'il a déjà frappé une autre femme auparavant. Ça peut aussi permettre à un membre de la famille inquiet de présenter des informations cruciales à son proche en lui disant « je sais que tu ne veux pas entendre cela, mais voici ce que ton partenaire a fait ».
Un outil supplémentaire que salue Rachel Morrow, directrice du Centre d'aide aux victimes de viol à Dublin, qui rappelle qu'une telle initiative ne fera pas disparaître du jour au lendemain les violences domestiques.
Une infime fraction des survivants demande justice et un nombre encore plus faible obtient un verdict de culpabilité au tribunal. Par conséquent, les personnes inscrites sur ce registre seront les symboles d'une réalité beaucoup plus large, le fléau des violences domestiques à travers le pays.
Law devrait entrer en vigueur d'ici la fin de l'année en Irlande.
Clémence Pénard, correspondante en Irlande. Alors, il est important de rappeler que cette journée internationale de mobilisation a pour objectif d'éliminer toutes les violences faites aux femmes, dont les violences au travail. Et ces violences sont nombreuses en Amérique latine. Au Guatemala, les travailleuses à domicile n'ont ni contrat, ni droits sociaux. C'est un reportage de Marie-Aimée Copleutre.
Confectionner des textiles ou des bijoux à domicile est un travail courant chez les femmes guatémaltèques. Sans droits sociaux, la plupart peuvent également souffrir de violences intrafamiliales. Alors l'une des solutions trouvées par les femmes, c'est la création de coopératives.
La coopérative aujourd'hui,
dans ce village maya, au centre du pays, 42 femmes possèdent désormais leur atelier de confection de tissus.
Cela ne me dérange pas de travailler beaucoup parce qu'ici je me réalise en tant que femme.
Ana Cholucho est née dans ce village. Ses parents ne parlaient que le maya. Elle a appris le français et l'espagnol pour développer les ventes à l'étranger.
J'aide aussi certaines femmes à vendre leurs produits, car dans le village, certaines ne parlent que la langue maya. Créer la coopérative nous a permis de réduire le machisme et les discriminations envers les femmes et nous a donné plus de place.
Des projets soutenus par le Centre national de la femme au Guatemala depuis maintenant 10 ans. Glenda Cano, la directrice.
Ce secteur n'est pas valorisé. Il n'a pas de salaire digne, pas de sécurité sociale, ni de vacances. La majorité sont des femmes indigènes entre 17 et 70 ans. Le fait que ces femmes obtiennent un contrat de travail et sortent de leur maison, cela leur permet d'obtenir leur indépendance économique. Si en plus, ces femmes connaissent leurs droits et s'organisent en collectif, alors elles gagnent en autonomie et en prise de décision.
Ces 10 dernières années, la création de coopératives de femmes prend de l'ampleur au Guatemala, mais l'écart de rémunération entre le travail des hommes et celui des femmes demeure de 40%.
Le reportage au Guatemala de Marie-Aimée Copleutre. Et après ce journal, on reparle de la lutte contre les violences faites aux femmes dans Question du soir avec Quentin Laffey. Les négociations autour du plan de paix américain pour l'Ukraine semblent s'accélérer ce soir. La coalition des volontaires, qui réunit les pays prêts à offrir des garanties de sécurité aux Ukrainiens, s'est réunie en visioconférence cet après-midi. Et selon Emmanuel Macron, il y a, je cite, enfin une chance de réaliser de vrais progrès vers une bonne paix. À Washington, la presse américaine évoque ce soir un accord entre l'Ukraine et les États-Unis, Agathe Mahué.
Oui, et il faut rester prudent à ce stade, hein, puisqu'il ne s'agit que d'un responsable américain selon lequel Washington et Kiev se sont entendus sur les termes d'un accord de paix, même s'il reste, dit-il, quelques détails à régler. Cela fait suite, en tout cas, à des discussions qui se tiennent depuis hier secrètement à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, en présence donc des Américains et de délégations ukrainiennes et russes, sans que l'on ne sache pour l'instant la façon dont ces échanges s'organise précisément. C'est une nouvelle étape en tout cas après les négociations de Genève ce week-end avec les Européens également qui tentaient d'éviter pour Kiev une forme de capitulation forcée telle que la première version du plan américain présentait les choses de manière trop favorable à la Russie. Reste à voir justement ce que va dire maintenant de ce plan amendé, retravaillé, ce que va dire le camp russe. Là-dessus aussi, à ce stade, les Américains se disent confiants. Volodymyr Zelensky lui se montre plus nuancé. Il expliquait ces dernières heures encore qu'il restait beaucoup de travail à accomplir, alors que son entourage dit espérer organiser ces prochains jours peut-être un voyage du président ukrainien à Washington.
Merci Agathe Mahué depuis Atlanta aux États-Unis. La Cour de justice de l'Union européenne a rendu aujourd'hui un arrêt fondamental pour les droits des homosexuels. Si un mariage entre deux personnes de même sexe est célébré dans un pays de l'UE, cette union doit être reconnue dans tous les autres États membres, même ceux qui n'ont pas légalisé le mariage pour tous. La Cour avait été saisie par un couple polonais après le refus de la Pologne de reconnaître leur union. Les explications d'Ania Vogel.
En 2018, ces deux citoyens polonais qui séjournent en Allemagne et dont l'un possède aussi la nationalité allemande se marient à Berlin. Par la suite, ils veulent se rendre en Pologne pour y vivre en tant que couple marié, mais lorsqu'ils demandent la transcription de leur acte de mariage dans le registre d'état civil polonais, cette demande est refusée au motif que le droit polonais n'autorise pas le mariage entre les personnes de même sexe et que la transcription violerait ses principes fondamentaux. Le couple va devant les tribunaux et c'est un juge polonais qui saisit la Cour de justice de l'Union dont l'arrêt est très clair. Ce refus viole la liberté de circulation et le droit à la vie familiale dont jouissent tous les citoyens de l'Union. La Pologne a donc obligation de transcrire et de reconnaître cet acte de mariage, bref de permettre à ses ressortissants de construire une vie familiale dans un autre État membre et de la continuer de retour dans leur pays d'origine.
Alors cette décision a été saluée par la communauté LGBT en Pologne, même si la légalisation du mariage homosexuel n'est pas pour demain dans le pays. Adrien Sarla, correspondant à Varsovie, s'est entretenu avec l'un des plus célèbres militants polonais pour les droits LGBT, Bart Staszewski.
Un verdict inespéré pour une communauté toujours discriminée en Pologne. En apprenant la décision du tribunal de Luxembourg, Bart Staszewski a mis quelques heures à comprendre l'implication légale de cette décision pour les couples homosexuels polonais.
Ce verdict est plus révolutionnaire que tout ce à quoi on pouvait s'attendre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas juste reconnaître qu'il y a eu une union à l'étranger. Il doit aussi accorder aux couples les mêmes droits et devoirs qui leur ont été accordés à l'étranger.
Lui prédit l'apparition d'une nouvelle forme de tourisme pour les couples homosexuels polonais, alors que la légalisation des unions civiles par le Parlement reste encore très lointaine.
Un tourisme marital va se développer. Effectivement, il n'y aura toujours pas d'institution pour les couples de même sexe qui vivent en Pologne et veulent se marier ici. Mais ce sera possible pour les personnes qui iront à l'étranger, chez nos voisins les plus proches, où les unions civiles de même sexe existent.
Avec son compagnon, ils envisagent même eux aussi un aller-retour en Allemagne pour se marier et jouir des mêmes droits que les couples hétérosexuels polonais.
C'est un constat très triste, mais si après tant d'années d'attente, après 30 ans de démocratie en Pologne, on ne peut toujours pas s'attendre à une quelconque reconnaissance, c'est peut-être l'heure de ravaler notre orgueil et de réaliser ce rêve ailleurs. Car la vie est trop courte pour se cacher derrière de grands principes et ne pas vivre pleinement.
Le mois dernier, le Parlement polonais a renoncé à débattre d'une proposition de loi sur le PACS et s'apprête désormais à plancher sur un texte encore moins ambitieux, proposant d'offrir aux partenaires de même sexe le simple statut officiel de personne la plus proche.
Adrien Sarlat, correspondant en Pologne pour France Culture. La mort de l'actrice algérienne Baya Bouzar, connue sous le nom de scène de Biouna, figure du cinéma algérien, elle avait tourné plusieurs films en France, comme Le Flic de Belleville en 2018. Baya Bouzar avait 73 ans. Un mot du temps, demain, le froid revient sur la moitié est avec de la neige à basse altitude sur les massifs. À l'ouest, la pluie arrive par la Bretagne. Demain matin, il fera entre 0 et 2 degrés en général avec un risque de gelée par endroit. Les températures maximales iront de 6 à 10 degrés jusqu'à 14 degrés du côté de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Vicrobeck à la technique, Grégory Wallon.